Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et n'oubliez pas, à 19h40 tout à l'heure, le Club Tour avec Axel May. Dernière étape aujourd'hui au Danemark. Donc après, on part en France. Mais ça sera encore un dernier Club Tour du Danemark avec Axel May. 19h16, nous, on part du côté de Clermont-Ferrand, enfin pas très loin, à Gergovie, ce lieu évidemment qui sonne dans nos cerveaux, dans nos mémoires. On se remémore nos cours de CE1, CE2 avec cette bataille de Gergovie. Et j'accueille Arnaud Pocris. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur culturel et médiation des publics au musée de Gergovie. Bonsoir à Dominique Garcia. Vous êtes
Bonsoir. Le
président de l'INRAP, l'Institut de recherche archéologique préventive, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, auteur de « Les Gaulois à l'œil nu ». D'ailleurs, Dominique Garcia, petite question comme ça au débotté avant de nous intéresser à cette exposition au musée de Gergovie. Est-ce que Vercingétorix, les Gaulois, mis à part Astérix, est-ce que ça fait encore rêver les Français ?
Ah ben oui, je pense. On a tous eu en main, effectivement, un Astérix en main, un livre d'école qui nous parlait des Gaulois. Mais en plus, on retrouve encore les traces des Gaulois dans nos paysages, les sites archéologiques, les noms de lieux. Donc, effectivement, je pense que les Gaulois sont nos ancêtres parmi d'autres, mais des ancêtres qui résonnent différemment.
Arnaud Pocris, cette exposition qui a commencé le 18 juin 2022, donc cette année dans votre musée, qui va d'ailleurs se prolonger jusqu'à tard, jusqu'au 8 mai prochain 2023. Cette exposition, elle a été basée sur les découvertes archéologiques de ces dernières années ?
Oui, en fait, le musée de Gergovie a ouvert en 2019 et il se trouve que depuis, il y a de nombreuses découvertes archéologiques et travaux qui ont été menés sur l'emprise de ces camps romains au pied de l'oppidum gaulois et qu'il était important pour nous de mettre en lumière justement ces nouvelles découvertes qui renouvellent un peu, enfin qui à la fois confirment ce qu'on savait déjà sur l'emplacement de ces camps, mais qui apporte de nouvelles informations, notamment sur l'organisation interne du camp et la manière dont vivaient les légionnaires.
Qu'est-ce qu'on a découvert précisément ?
Alors, un certain nombre de fours, 5 fours culinaires, en fait, qui étaient donc des petites unités de cuisson réservées chacune à une tente hébergeant 8 légionnaires. Donc ces fours, en fait, permettaient à ces 8 légionnaires de se préparer leur repas. Il n'y avait pas de cantine générale à l'échelle du camp, donc chacun se préparait ses repas en fonction de ce qui lui était fourni par l'armée et éventuellement d'aliments qui étaient chassés, enfin des compléments qui étaient trouvés sur place, soit par la chasse, soit par le pillage.
Les toutes dernières choses que vous avez retrouvées, les toutes dernières fouilles, c'était quoi ?
Alors, en l'occurrence, un élément un peu... émotionnel,
ouais,
en tout cas
ouais.
Non, un peu anecdotique, on a découvert un piquet de tente, justement, romain, une sardine, hein, tout simplement,
ouais.
Et voilà, qui date de plus de 2000 ans.
Ça, c'est formidable de pouvoir découvrir cela plus de 2000 ans après et de savoir quelle est la sardine romaine et la sardine gauloise.
Oui, alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de doute, puisqu'on est vraiment... la découverte a été faite sur un fossé de fortification romain.
Mmh.
Et on s'aperçoit que finalement, la technique a peu évolué depuis 2000 ans.
Oui, comme quoi les bonnes recettes restent justement pour la suite. Dominique Garcia, quand vous avez, j'allais dire, écho de ces trouvailles, évidemment, ça vous remplit de joie.
Bah oui, bien entendu, c'est de la joie, puis c'est chaque fouille archéologique est une pièce d'un puzzle qui permet un peu de restituer notre histoire. Donc effectivement, les fouilles réalisées sous le contrôle de la DRAC de l'État sous les pentes de Gergovie permettent à la fois de documenter l'emplacement des troupes romaines, mais aussi les liens avec le site de Gergovie, le site gaulois, et puis également nous renseigne sur les recherches de nos ancêtres archéologues du 19e siècle, et notamment les archéologues intervenus sous les ordres de Napoléon III, et qui eux aussi recherchaient les traces de ces combats entre les Gaulois et les Romains. Donc c'est des fouilles, vous voyez, multiples, qui permettent à la fois de documenter cette présence gauloise et cette présence romaine dans ce secteur, d'enrichir notre patrimoine et notre histoire, mais aussi de raconter un peu l'histoire des recherches sur le long terme, parce que les études sur les Gaulois ne datent pas d'hier et qu'à chaque génération, on essaie d'en savoir plus sur ce moment crucial de notre histoire.
Alors c'est un moment crucial de l'histoire, Dominique Garcia, vous faites bien de le dire. Je ne vous demande pas évidemment de vous attarder plus que cela, mais pour ceux qui n'ont, j'allais dire, jamais entendu parler de la bataille de Jargovie, ou en tout cas, c'est très très lointain dans leur esprit, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ça arrive et comment est-ce que ça devient presque une césure dans l'histoire de France?
Il y a peut-être au départ des intérêts économiques, c'est-à-dire les Romains qui exploitent les ressources de la Gaule, ou du moins qui font du commerce avec des Gaulois. Ils sont intéressés par le blé, ils sont intéressés par l'or, ils sont intéressés par les esclaves. Donc les Romains, avant même d'intervenir politiquement, militairement, en Gaule, ont des liens économiques avec cet espace. Et puis, à un moment donné, dans la tête sans doute d'un général pas comme les autres, le général César, il vient l'idée de conquérir cet espace. Donc il faut un prétexte. Le prétexte, c'est en 58 avant Jésus-Christ, des Helvètes, donc une tribu qui tente un petit peu de bouger, des témoignages qui montrent que ces tribus peuvent être dangereuses pour des alliés des Romains, en l'occurrence c'est les Éduins, un peuple qui vit en Bourgogne, ouais. Et donc le général dit « je vais venir là pour calmer un petit peu l'ardeur de ces Éduins », et puis là commence cette guerre des Gaules en 58 avant Jésus-Christ. Et progressivement, ce général, effectivement, essaiera de conquérir cet espace gaulois, celui de ses 60 tribus, dont celle des Arvernes, une tribu extrêmement puissante, placée au centre de la Gaule, aujourd'hui, on va dire, l'Auvergne actuelle, dont la capitale, mais il y a plusieurs sites qui peuplent cet espace, dont la capitale est probablement Jargovie. Et donc Jargovie restait dans l'histoire et aujourd'hui revêt un caractère spécifique parce que c'est une des rares défaites de César. Donc le Vince Argentorix, ce roi puissant des Arvernes, saura un petit peu freiner l'ardeur des troupes romaines, saura les faire reculer. Et donc, la bataille de Vercingétorix contre César à Jargovie en 52 avant Jésus-Christ est la première défaite notable des Romains. Donc, un point fort dans l'histoire avant la défaite cruciale, cette fois-ci, des Gaulois, et en l'occurrence de Vercingétorix, en 52 à Alésia.
Arnaud Pocris, Dominique Garcia, vient vraiment de nous... résumé de façon très précise et à la fois assez courte cette bataille de Jargovie. À quel moment décide-t-on de construire un musée pour un événement de l'histoire?
Alors, en fait, ça remonte à très longtemps, puisque finalement, les fouilles archéologiques ont commencé très tôt sur le plateau de Jargovie, et notamment au XIXe siècle, puis reprises dans les années 1930, dans les années 1940. Et un premier petit musée a ouvert ses portes dans un restaurant qui était situé sur le plateau de Jargovie, la hutte gauloise. Et finalement, oui, c'est le premier embryon d'équipement muséographique sur le plateau, qui va être ensuite repris en 1992 par un deuxième musée un peu plus conséquent, celui-ci, donc qui s'appelait la Maison de Jargovie. Plus conséquent, mais peut-être pas tout à fait à la hauteur de la notoriété du site. Donc il a été nécessaire à un moment de réfléchir à une nouvelle structure qui soit capable d'accueillir le public du plateau de Jargovie, qui accueille pratiquement 250 000 visiteurs chaque année.
Mmh. C'est qui les 250 000? Ce sont des classes principalement? Ce sont des enfants, des élèves?
Alors non, ce sont en fait vraiment tous les publics, je dirais. On est très très près de Clermont, donc les Clermontois sont très très friands de ce site naturel qui est à quelques kilomètres de chez eux, un peu en hauteur, donc qui permet de prendre un peu l'air parfois.
Mais on a étrangers aussi.
Oui, quelques étrangers.
Des Italiens qui viennent.
Non, un peu d'Italiens, des Belges souvent. des Belges qui font partie d'ailleurs des Gaulois. Mais oui, on a à peu près une moitié de locaux en fait qui viennent sur le plateau et une moitié de touristes.
Arnaud Pocris et Dominique Garcia sont avec nous. On parle de cette exposition César à Gergovie qui vient de commencer au musée archéologique de la bataille. On en parle dans un petit instant. Il y a encore plein de questions pour nos deux spécialistes. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Suite des débats de panorama jusqu'à 19h40 où nous retrouverons le Club Tour avec Axel May du côté du Danemark. César à Gergovie, cette exposition qui a commencé le 18 juin et qui a lieu jusqu'au 8 mai 2023. On parlait des fouilles archéologiques qui sont à l'origine de l'existence de ce musée de Gergovie près de Clermont-Ferrand. Est-ce que Arnaud Pocris, je crois savoir que les visiteurs sont même admis sur les chantiers des fouilles depuis peu.
Oui, alors effectivement, un nouveau chantier de fouilles vient de démarrer donc sous l'égide de l'INRAP et de la Maison des sciences de l'homme de Clermont-Ferrand. Et pour accompagner en fait ce chantier qui va se terminer fin juillet, nous organisons tous les jours, là, pendant les vacances d'été, des visites de chantier tous les jours à 11h30, gratuites pour présenter l'état d'avancement de ces recherches. Et effectivement, sur le plateau de Gergovie, on sent qu'il y a un véritable engouement pour la recherche lorsqu'un chantier de fouilles est en cours.
Mais en quoi ça consiste une visite de chantier ? C'est du sol en fait, donc on voit pas grand chose.
Alors fort heureusement, on a installé une plateforme de médiation, enfin dédiée à la médiation. Donc on amène le public sur cette plateforme qui surplombe en fait le chantier de fouilles, ce qui fait qu'on a une vue un petit peu plus en hauteur du site. Et puis il y a un certain nombre de structures qui commencent à apparaître tout récemment, et on essaye de faire comprendre, alors d'expliquer, puisque c'est un site qui a été fouillé déjà anciennement et dont on reprend aujourd'hui l'étude. Mais donc d'expliquer justement pourquoi on refouille un endroit qui a été fouillé anciennement. Ça peut paraître étrange, mais en fait, il y a énormément de choses à comprendre. Un secteur qui est assez obscur dans son interprétation pour l'instant.
Qu'est-ce qu'on espère encore découvrir ?
Beaucoup de choses, en fait. On estime qu'il y a entre 2 à 3% de la surface du plateau qui a été fouillée jusque-là, donc c'est quand même très peu. Le plateau est en lui-même très grand, puisqu'il fait 70 hectares. Et donc, on espère comprendre, en fait, à la fois l'organisation urbaine de la ville gauloise, qui reste encore un peu un mystère, et surtout en fait les différentes phases d'aménagement. En fait, ce qui apparaît à Gergovie lorsqu'on fait des fouilles, c'est que en quelques décennies finalement, puisque le site est occupé pendant 80 ans à peu près, il est abandonné au début de notre ère, il y a plusieurs phases d'aménagement qui se succèdent avec parfois des destructions complètes des aménagements précédents. Et donc chaque génération finalement réaménage son secteur, et c'est ce qui est très difficile à comprendre. Et en tout cas, ce qu'on voit à Gergovie, c'est la rapidité avec laquelle va se mettre en place la romanisation en quelque sorte, qui est visible dans les aménagements architecturaux.
Alors la romanisation, c'est-à-dire l'influence de la culture et du mode de vie des Romains sur les Gaulois.
Oui, c'est ça, en fait, c'est quelque chose qui très certainement est dès les premières relations avec les Romains, les relations commerciales, eh bien c'est quelque chose qui se perçoit parfois sur les sites gaulois, mais qui s'accélère évidemment après la guerre des Gaules. Et donc Gergovie est vraiment peut-être un très bon laboratoire pour pouvoir étudier cette phase-là, justement, juste après la conquête, entre la fin de la conquête par César et puis la mise en place du pouvoir romain un peu plus présent, on va dire, sous le règne d'Auguste à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Dominique Garcia, puisque l'INRAP, justement, fait partie de ce chantier de recherche, qu'est-ce que vous espérez encore découvrir, comprendre, pour rajouter à ce que vient de dire Arnaud?
Le mot est dédié, c'est la notion de laboratoire. Aujourd'hui, une fouille archéologique, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Là, en l'occurrence, Yann de Berge et Marion Dacot fouillent le site avec des étudiants, avec des jeunes chercheurs, et on se pose effectivement des questions sur les origines anciennes de ce site gaulois, mais également ce processus de romanisation. Donc on voit dans ce quartier d'artisans comment les populations, en delà des conflits militaires, au-delà du changement de statut, occupent le site, le vivent, le font se transformer. Et donc c'est ça aujourd'hui un chantier de fouille, c'est documenté par des éléments matériels, un élément fort de notre histoire, produire du patrimoine qui, on voit, intéresse les populations, et puis permet d'illustrer plus clairement un discours historique un peu flou, voire un récit national qui a évolué à travers le temps. Mais là, on revient aux sources, aux archives du sol, pour mieux documenter ce qui était vraiment le site.
Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent, et je pose la question à vous deux, à Arnaud Pocris et Dominique Guersa, qu'est-ce qu'on sait sur les stratégies militaires à la fois de César d'un côté et de Vercingétorix de l'autre?
On a...
Oui, allez-y Dominique.
On a affaire à deux grands stratèges, hein, de la part de César. Il y a une bonne connaissance des lieux, des renseignements. Il s'appuie également sur des alliés locaux. Il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas voir un bloc gaulois contre un bloc romain. Il faut savoir que la partie méridionale du pays, la Provincia, était déjà romanisée quand César intervient dans le reste de la Gaule. Donc toute la partie sud de la France était déjà romanisée. Donc il y avait une bonne connaissance de ce secteur de la part du conquérant. Et il va jouer peut-être les conflits d'intérêts entre les différentes tribus gauloises, notamment ses alliés éduins, les gens de Bourgogne, avec qui les Romains entretenaient des bonnes relations. Il va s'appuyer sur ces troupes-là pour ensuite essayer de conquérir cet espace. Et en face, effectivement, il y a une série de peuples plus ou moins bien organisés, mais en tout cas pas fédérés pour faire face à cette conquête romaine. Et puis surgit cette image de Vercingétorix, donc effectivement un personnage ambitieux, jeune, qui va essayer, lui, de regrouper, de fédérer les Gaulois contre les Romains. Sans doute un peu tard, sans doute sans avoir le poids politique et les informations dont bénéficiait César, mais en tout cas, il va être effectivement un combattant à la hauteur de César. D'ailleurs, presque tout ce qu'on connaît de Vercingétorix, on le connaît au travers des écrits de César. Et on est à la fois étonné de la manière dont César décrit ce personnage, fougueux, entreprenant. Peut-être on peut imaginer que César a un peu forcé le trait, c'est-à-dire qu'à un moment où il avait du mal à conquérir le pays, peut-être il a attribué à Vercingétorix des qualités qu'il n'avait pas, pour renforcer un petit peu sa place à lui et montrer que quand il avait des difficultés, ce n'était pas lié à ses propres insuffisances, mais aux capacités, aux qualités de cet ennemi, en le gaulois, en l'occurrence Vercingétorix.
Qu'est-ce que, d'ailleurs, Arnaud Pocris, sur Vercingétorix lui-même, certains observateurs disent qu'il est davantage un mythe qu'un véritable guerrier. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Certains chercheurs ont même remis en cause le fait qu'il ait pu exister, en disant que César avait tellement peu...
Elvis Presley aussi, hein, donc bon, voilà.
Voilà, et tellement peu...
Certains pensent qu'il est encore vivant.
...souffrir de la résistance des Gaulois, qu'il s'était inventé un mythe. Or, ça c'est quand même remis en question par le fait qu'il existe des pièces de monnaie à l'effigie de Vercingétorix et à son nom, ce qui authentifie quand même son existence. D'ailleurs, pour revenir sur les stratégies, d'ailleurs, Vercingétorix, lui, semble avoir appliqué une stratégie pour affaiblir les légions romaines pendant l'année 52, c'est qu'il essaye de les couper de leur ravitaillement, de leurs ressources. Il faut imaginer la quantité d'alimentation, de fourrage, de céréales nécessaires pour alimenter une légion en marche à Gergovie. 6 légions sont présentes, il faut 25 tonnes de céréales par jour pour alimenter ces hommes. Et donc ce qu'essaye de faire Vercingétorix, c'est vraiment de fragiliser les légions romaines en les coupant de toute possibilité de ravitaillement, en brûlant même les réserves de blé gaulois.
Donc c'est une stratégie vraiment militaire, reconnue, etc. On disait, Dominique Guersa à l'instant disait que Vercingétorix existe d'une certaine manière via les, les écrits de Jules César. Lui-même, Vercingétorix, est plutôt un taiseux, il n'a pas laissé de notes, il n'a pas laissé d'écrits.
Alors les Gaulois n'écrivant pas ou très peu ou uniquement pour sur des documents plutôt administratifs ou à usage magique, on va dire.
Qu'est-ce que c'est l'usage magique?
Comment?
L'usage magique, qu'est-ce que c'est?
Oh, c'est quelques inscriptions qu'on retrouve sur, par exemple, des tablettes céramiques ou des tablettes de plomb, de rituels ou de qu'on appelle des défictions, en fait, qui sont des mauvais sorts jetés à des ennemis. Mais en tout cas, ça ne fait pas un récit de la guerre des Gaules. Et donc, on n'a pas le pendant de César côté gaulois en termes de texte relatant les événements. Donc, on a comme unique source celle d'un des participants et de celui qui, d'ailleurs, à Gergovie, a essuyé un échec. Donc, on imagine bien que sa manière de raconter ce qui s'est passé n'est peut-être pas tout à fait proche de la réalité.
Alors évidemment, cette exposition qui vient de commencer, elle est agrémentée de plusieurs choses. Il y a des fêtes gauloises, c'est ça? Il y a un archéobus, il y a des ateliers en famille?
Oui, alors tout au long de l'été, effectivement, on va proposer des animations donc qui sont soit des visites guidées, soit effectivement des animations à base de reconstitution, romaine, notamment pour les journées du patrimoine où nous aurons des légionnaires en fait sur place qui présenteront leur mode de vie.
Des légionnaires de l'armée, donc des vrais légionnaires, vous voulez dire?
Oui, pardon, des légionnaires de l'armée romaine.
Ah oui, c'est ça, oui. Enfin, parce que là, je pensais aux légionnaires avec ouais, le béret vert, quoi, voilà.
Voilà. Donc ce genre d'animation, effectivement un archéobus aussi, alors qui est important pour le musée de Gergovie puisqu'il permet de relier plusieurs sites gaulois à partir de Gergovie en passant à proximité des camps romains. Donc on entraîne les visiteurs pendant 4 heures en fait avec un guide conférencier ou une guide conférencière sur les sites voisins de Gondole et de Coran qui sont également des oppidas qui ont été occupés à peu près à la même époque.
Extraordinaire, il y a même un parcours enquête en famille, une sorte de Cluedo. Merci beaucoup à vous deux, merci à Arnaud Pocris, merci à Dominique Garcia pour cette exposition donc à Gergovie. Merci à tous, merci à mes équipes et merci à Capucine Patouillet qui a eu l'excellente idée de ce sujet César à Gergovie. Je vous laisse, très bonne soirée sur Europe 1. Le Club Tour, c'est dans un instant avec Axel May.